Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Si c'est le cas, 10h02 jusqu'à 11h, on va revivre ce matin quelques-uns des grands procès des personnalités du monde entier qui ont captivé les médias et le public. Des stars accusées ou victimes, de Marlon Brando à Bertrand Cantat, de Johnny Hallyday à Michael Jackson. Ces personnalités de la chanson, acteurs, champions du monde, sont-ils finalement des justiciables comme les autres? C'est la question qui traverse le livre passionnant de notre invité Emmanuel Pierra, Star à la barre aux éditions Hugo Doc. Une vingtaine d'affaires, 23 exactement, retracée, pour certaines de la découverte des corps jusqu'au verdict, quand la célébrité se mêle à la vengeance, au sang, au drame, entre coups de théâtre et acharnement de la justice, une plongée avec vous dans ces histoires qui ont passionné, quelques archives à la clé. C'est le sujet, vous pouvez réagir sur Europe 1 et au standard.
Voilà, au standard, le 39-21, 50 centimes la minute, et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
Merci Julie, c'est parti.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec vous Emmanuel Pierra, bonjour.
Bonjour Wendy Bouchard.
Vous êtes un homme de loi, avocat spécialisé dans le monde de la culture et des médias, un homme de verbe aussi, hein, une dizaine de livres, plusieurs dizaines, hein, des romans, des essais, des encyclopédies, des pense-bêtes sur ce monde judiciaire. Que traduit d'abord pour vous cette soif d'écriture et de pédagogie quelque part ?
De la pédagogie, vous venez de le dire, oui. De la vulgarisation. Moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait très peu de livres et j'ai appris grâce à l'école laïque et républicaine et la bibliothèque municipale la passion des livres qui, pour moi, a été la clé de l'éducation et la voie pour devenir avocat. Oui. Donc, je dois tout aux livres, à la vulgarisation, à la transmission. Donc, je suis dans une forme de transmission. Alors, certes, en parlant de crimes, de meurtres, de procès, mais je dois dire que ça nous fascine tous et que moi, j'aime bien décoder ces mondes mystérieux, difficiles, difficile à comprendre quand on ne possède pas les clés, le vocabulaire, la théâtralogie très particulière, cette façon, ce langage qui fait parfois appel au latin, à des mots à quatre syllabes et qui est plus fait pour impressionner le justiciable que pour lui rendre la justice intelligible.
Oui, car on est entouré de cet univers judiciaire, mais on ne connaît pas forcément les codes, les règles. Et le point commun que vous avez choisi entre tous ces procès, c'est peut-être la médiatisation à un moment donné, l'hypermédiatisation et la difficulté de démêler le vrai du faux du côté de l'opinion publique.
Ce sont surtout des procès, ces 23 procès que je raconte dans Star à la barre sont des affaires dans lesquelles l'opinion publique a un poids capital. Elle a un poids capital parce que quand on juge George Michael, Charlie Chaplin, Bertrand Cantat ou Michael Jackson ou Jean Gabin ou des stars françaises, il est extrêmement difficile de penser que le juge ne les connaît pas par avance. C'est-à-dire, en dehors du dossier, n'a pas une opinion, ou en tout cas, ne les a pas vus dans un film, ne les a pas entendus dans un disque, ne les a pas au minimum vus dans les journaux. C'est-à-dire, ne s'est pas déjà fait une opinion en disant « je l'aime, je l'aime pas, il chante bien », etc. Et donc, part d'un préjugé, ce qui n'est normalement pas le cas quand vous êtes juge aux affaires familiales, même aux assises, et que vous avez à juger des gens que vous n'avez jamais croisés dans votre vie de façon réelle ou virtuelle. Là, tout le monde a une opinion. Et l'opinion publique, elle influe sur le juge, non pas que les juges ne manquent d'indépendance, mais parce que ce sont des êtres humains. Mmh. Parce que quand, d'un seul coup, le procès devient tellement spectaculaire, tellement il y a de monde, qu'on est obligé, par exemple, dans l'affaire de George Michael, de changer la date secrètement, tellement il y a de groupies qui se massent pour assister au procès. C'est George Michael qui est arrêté par la police californienne pour avoir fricoté dans des toilettes publiques avec un policier déguisé en civil qui était là pour l'attraper. Et donc, les fans sont tellement émus de découvrir que George Michael est gay, mais de surtout qu'il assume et que ça va être un spectacle, un combat ou un spectacle extraordinaire, que le magistrat, les juges, voyant les gens commencer à camper la veille au soir comme pour un concert, c'est-à-dire posant leurs chaises, leurs pliants pour être sûr d'avoir une place, il décide que c'est pas possible, qu'on peut pas juger sereinement et que donc on décale de 10 jours dans une date secrète. Voilà. Et c'est ça, les affaires judiciaires des stars, ce sont des ténors du barreau aussi,
oui.
Des stars quand même du barreau.
Absolument.
Qui sont là aussi pour faire le show. C'est des témoins qui défilent à la barre où on a l'impression d'être aux Grammy Awards ou aux Oscars ou aux Victoires de la musique en permanence.
Ce qu'on aurait pu risquer avec le procès Michael Jackson, on en parlera.
Exactement. Oui. Et puis on se retrouve avec une dramaturgie particulière parce qu'évidemment les bancs de la presse sont remplis de gens qui sont prêts à guetter le moindre mot, le moindre, tout est disséqué, encore plus que pour les grands criminels, où Dieu sait si cela nous fascine
oui.
déjà.
En tout cas, tout au long de la lecture de ce livre, qui est extrêmement bien documenté, avec ces 23 histoires qu'on lit de manière assez savoureuse, même hélas quand c'est dramatique, j'ai pensé à un texte que vous avez vu interpréter sur scène, Julie, parce qu'il est issu du spectacle Plaidoirie, que rejouera à la rentrée Richard Berry, issu des chroniques judiciaires de Mathieu Aron, et notamment, on a cette plaidoirie de Maître Lombard dans l'affaire Christian Ranucci, je vous en lis quelques mots. Mesdames et messieurs les jurés, ne vous fiez pas aux apparences, n'écoutez pas non plus la rumeur ignoble, n'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche, il faut la chasser de nos prétoires, car lorsqu'elle entre par une porte, la justice sort par l'autre. Il défendait Ranucci qui finalement sera condamné à mort et exécuté. Mais on a déjà, on est dans à la fin des années 70, déjà tout le sens de cette opinion publique que vous mettez en exergue ici.
Bien sûr, qui est aujourd'hui entré pleinement dans les tribunaux. Hein, à l'heure des chaînes d'infos, on continue. Des live tweets, c'est-à-dire de la possibilité de tweeter depuis la salle d'audience, en racontant les procès. Et donc, il y a la justice, elle est publique hein, aussi. En France,
les procès ne sont
États-Unis.
Plus filmés ni retranscrits.
Les procès ne sont pas filmés en France. Sauf les procès, les grands procès historiques, mais aux États-Unis, les caméras de télévision sont là en permanence. Oui. Dans l'affaire O.J. Simpson, le fameux footballeur américain qui avait été rendu célèbre, notamment pour avoir gagné des matchs, ça c'est une chose, mais surtout ensuite tuer son ex-compagne et le nouveau compagnon de son ex-compagne, puis avoir s'être enfui. On se souvient tous de ces images où il y a les hélicoptères qui suivent la course-poursuite avec la voiture. Il était avec son chauffeur qui le menaçait. Ça a été un truc totalement dément avec les hélicoptères de la police, eux-mêmes regardés par les hélicoptères de la presse jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent et qu'ils soient arrêtés et puis qu'ils soient jugés. Lorsqu'il a été jugé après un procès fleuve dans lequel ses avocats ont utilisé surtout la carte raciale, en disant O.J. Simpson est noir, il a jusqu'ici joué le jeu, il a épousé une femme blanche, il a voulu s'intégrer, vous l'avez rejeté, donc je joue la carte raciale. Il y avait une tension, des émeutes à cette période-là aux États-Unis. Il y a eu 100 millions de téléspectateurs en direct pour suivre la fin du procès, les plaidoiries, les réquisitoires, les derniers mots. 100 millions de téléspectateurs. Comment imaginer que le juge sereinement peut en quelque sorte faire abstraction de ce qui se passe autour, de ce qu'il avait vu lui-même sur CNN, la course-poursuite ou quoi que ce soit, pour pouvoir en tirer une décision. Et d'ailleurs, là, ça a été, à la surprise générale, un acquittement de la part du jury populaire au criminel. C'est-à-dire que O.J. Simpson est reconnu non coupable, mais il est, par un juge professionnel un peu plus serein et tout seul, condamné au civil à 33 millions de dollars, c'est-à-dire paradoxalement dans le système américain, acquitté pour le meurtre et condamné en même temps pour le meurtre à des dommages et intérêts. Voilà les travers, entre guillemets, les effets spectaculaires de la justice spectacle quand elle vient faire des stars, faire venir des stars du showbiz qui eux-mêmes sont de très bons clients à la barre.
Des États-Unis jusqu'à la France, star à la barre, voilà l'une des 23 affaires extraordinaires de célébrités que vous mettez en lumière, Emmanuel Pierra, dans ce livre de chez Hugo et Compagnie. On va faire le tour de cette question en parlant d'autres personnalités jugées, à équivalent des anonymes ou pas, justement. On va faire le point sur ce sujet, à tout de suite, en parlant notamment de Michael Jackson et de Jean Gabin.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Par les paroles de cette chanson qu'Emmanuel Pierra commence le chapitre dédié à Jean Gabin, l'une des stars à la barre dans ce livre chez Hugo et Doc Emmanuel Pierra, parce que cette année-là, on est en 1962, il se trouve que dans la nuit du 27 au 28 juillet, chez lui, dans l'Orne, Jean Gabin a une surprise un peu étonnante et particulière. Il se retrouve encerclé par 700 cultivateurs et éleveurs de vaches autour de sa propriété et une cinquantaine force l'entrée de son domaine. Que se passe-t-il autour de Jean Gabin, Emmanuel Pierra ?
Autour de Jean Gabin s'est développée une forme de jalousie de la part des agriculteurs, des paysans, du village dans lequel il s'est installé et dans lequel il a développé une ferme. Il a repris une ferme traditionnelle qui n'allait pas bien, comme la paysannerie, l'agriculture française régulièrement le vivent.
C'est un enfant de la terre, Gabin, il faut le dire.
Voilà, c'est un enfant de la terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a racheté une ferme à des gens qui avaient du mal, évidemment, à s'en sortir. Et il décide d'utiliser tous les moyens modernes, radicaux, qui existent à l'époque, dans les années 60, qu'on commence à mettre en place des instruments mécaniques qui paraissent être depuis toujours dans nos campagnes, mais qui en réalité sont relativement récents, de l'engrais, des tas de choses qui déroutent. Et il a un succès inouï, c'est-à-dire celui qu'on prenait en même temps, on sait que c'est un enfant de la campagne, mais pour les villageois où il s'installe dans l'Orne, c'est Jean Gabin du cinéma, c'est le monsieur de la ville. Oui. Et le monsieur de la ville, il finit par faire une étable géante avec un nombre de vaches qui vont très bien. Il a des chevaux, il a un haras, il produit des hectares avec un rendement bien supérieur à tout le village. Et il suscite donc une forme, on va dire, de jalousie ou de grogne contre ce Parisien qui viendrait s'enrichir, alors non pas sur le dos des pauvres paysans autour.
Non, parce qu'il a acheté ses terres. Oui.
Voilà, il a acheté ses terres, mais juste par comparaison, il suscite un peu la furie des paysans. Et ils vont donc forcer la porte, en quelque sorte, s'inviter dans la propriété. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent demander. Oui. Ils veulent juste, ils sont en colère, ils ne vont pas bien. Donc ils ont cette forme de colère qui consiste à aller jusque dans son bureau. Et il décide de les recevoir et il dit « je vous reçois 7 ou 8 et vous m'expliquez quel est votre problème ». Et quand généralement c'est comme ça, les gens n'ont pas nécessairement grand-chose de concret à demander. Oui. Ce qui se passe, c'est que le lendemain, Jean Gabin quand même l'a eu mauvaise, très mauvaise. Il ne se considère pas comme ayant volé quoi que ce soit, il se considère comme un enfant du peuple. Il n'est pas particulièrement né avec une cuillère en or dans la bouche. Il a travaillé, y compris travaillé dans sa ferme. Il a conçu, il a certes plus de moyens que les autres, mais il se trouve quand même, il a trouvé ça un peu fort de café. Et il va chercher René Fleuriot, le plus grand pénaliste de son époque, c'est-à-dire un type qui plaidait des affaires de meurtre, incroyable, donc totalement surdimensionné, mais qui est l'avocat de Jean Gabin, pour lui dire il faut assigner tous ces gens pour avoir violé ma propriété, m'avoir menacé.
Il faut dire que l'affaire fait la une de tous les journaux, de France Soir à Paris Match.
L'affaire fait la une des journaux. Et là, aux grandes dames des paysans ou des agriculteurs ou de ceux qui avaient forcé la porte, tous les agriculteurs, heureusement, autour ne se sont pas mêlés à ça, aux grandes dames, alors qu'eux désignaient en disant « regardez-le, ce salaud qui s'enrichit », la presse, unanimement, Paris Match, etc., tous les journaux disent « bah oui, c'est pour ça que la France paysanne ne s'en sortira pas, c'est si elle ne se modernise pas, si elle ne change pas de méthode, si elle continue à travailler de façon, on va dire, non rationnelle. » Et elle fait les louanges de Jean
Gabin.
C'est
rare, la star n'est pas au pilori.
Évidemment, la star n'est pas au pilori. Au contraire, tous les journaux disent, après avoir enquêté, « non, Jean Gabin a réussi, montre qu'il est possible de vivre de sa terre à condition d'avoir l'esprit ouvert et d'être ouvert à de nouvelles techniques. » Et là, le procès, entre-temps, file son cours et finalement, il est déjà gagné auprès de l'opinion publique par Jean Gabin. Ceux qui étaient rentrés chez lui se sentent un petit peu piteux, ce qui fait que Jean Gabin aura cette classe quand même le jour de l'audience de dire « j'abandonne toutes les poursuites ». Et ça ne s'est pas terminé par un verre au village offert par Jean Gabin, mais globalement, les choses se sont apaisées et dégonflées en une minute.
Il y en a qui n'a eu rien à faire, c'est le fameux maître Fleuriot, qui n'aurait pas eu à plaider dans cette affaire.
Mais c'est Jean Gabin, c'est le seul procès véritable que Jean Gabin a eu, et il n'en revenait pas qu'on puisse venir l'attaquer sur ça et sur quelqu'un qui avait fait par ailleurs sa fortune par lui-même.
Et il en sort par le haut.
Il en sort par le haut, en faisant la leçon. Et puis après, tout s'est bien passé, finalement, dans l'ordre. Comme quoi, les esprits s'échauffent parfois un été, puis redescendent très vite.
Alors, on va faire le pont entre la France et les États-Unis. C'est facile de voyager avec vous, avec cet ouvrage, Emmanuel Pierrat. Dans un instant, les différences culturelles judiciaires très notables. On va y venir avec l'affaire Michael Jackson. Et puis, on parlera de ce drame autour de Bertrand Cantat. Beaucoup de choses à dire sur cette affaire encore. 23 affaires extraordinaires de célébrités qui nous passionne entre politique, justice et médiatisation.
Europe 1.
On retrouve Maître Emmanuel Pierrat et Wendy Bouchard, maître avocat spécialiste du droit de la culture et des médias, qui publie Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités, et c'est paru chez Hugo et Doc.
Alors, vous trouvez à la fois Chaplin, John Lennon, Marlon Brando, Yves Montand, O.J. Simpson, on en a parlé, George Michael également, Oscar Pistorius, on y reviendra, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur Michael Jackson, parce que on commence d'ailleurs ce livre avec ce procès. Star à la barre, c'est un titre qui puise d'ailleurs dans cette affaire en particulier, car de tous les procès de stars, c'est celui qui a failli provoquer, écrivez-vous, le plus vertigineux défilé de stars à la barre, avec le nombre de témoins de la défense prêts à parler pour soutenir l'artiste. Elizabeth Taylor, Stevie Wonder, Quincy Jones, Larry King, un carnet d'adresses contre les juges et l'opinion publique vacillante. Il n'aura pas eu besoin de convoquer ces stars à la barre, Michael Jackson. Mais il faut revenir sur cette affaire qui en regroupe plusieurs. En fait, tout commence pour Jackson en 1993 avec une série
de... Dans le tableau des témoins, je pourrais rajouter les Bee Gees, Donna Summer, Matthew McConaughey, le jeune acteur de J'ai raté l'avion. Enfin bref, c'est tout Hollywood qui défile de la musique et du cinéma.
Ils se disent prêts vraiment à témoigner pour soutenir l'artiste.
À soutenir l'artiste, mais en soutenir et en disant pas grand-chose. C'est-à-dire à dire « je n'ai rien vu, c'est un homme formidable ». Ce qui, évidemment, est l'absence complète de témoignages pertinents.
Ce qu'on lui reproche, il faut le rappeler à notre public, ce sont des relations très particulières avec des mineurs qu'il fait venir dans son ranch de Neverland. On parle pas au début de pédophilie, mais le terme arrive assez rapidement. Dès 1993, on a des plaintes d'ailleurs d'enfants, puis de parents de ces enfants qui sont venus voir la star.
On a des plaintes de parents, c'est-à-dire que les enfants se confient à leurs parents, et puis on a des plaintes de parents, qui sont dans des situations un peu complexes. Alors, il ne s'agit pas de dédouaner du tout Michael Jackson, mais de faire comprendre que ce sont des parents qui ont accepté que leurs enfants, fans de Michael Jackson, dorment à Neverland pendant plusieurs nuits, plusieurs semaines, dans un rapport un peu compliqué. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, sachant ce qu'on sait sur la pédophilie, etc., on envoie nos enfants librement chez un adulte dormir pendant plusieurs semaines. Il faut être dans un état d'esprit un peu de fan et un peu fasciné par Neverland, à un point qu'on en oublie peut-être que...
Le royaume de Peter Pan, les enfants ne grandissent jamais.
Voilà. Et on se retrouve donc avec des enfants qui font part à leurs parents de choses qui se seraient passées, qui ne ressemblent pas à des relations uniquement amicales, à une sorte de milliardaire qui arroserait un peu, couvrirait de cadeaux des jeunes protégés, mais quelque chose d'un peu plus complexe. Il y aura un premier accord financier très important, signé par Michael Jackson et ses avocats, pour éviter que les plaintes n'aillent plus loin. Et c'est possible dans la justice américaine de passer un accord. Ça n'est pas possible ici, par exemple, d'acheter le silence complet de gens qui ont été violés, abusés ou quoi que ce soit. Donc il y aura cet accord qui ne nous dit pas d'ailleurs s'il s'est passé réellement quelque chose, si ça tenait ou pas. Mais en tout cas, face à la rumeur, Michael Jackson décide de passer à l'offensive et de ciseler l'accord.
Parce que, pardon Emmanuel Pierrat, mais dans cette affaire, on n'a pas de preuves.
On n'a pas de preuves, bien sûr. C'est le même système. On est parole contre parole avec des enfants qui sont pris isolément. Ils ne sont pas en groupe. Ils sont tout seuls avec Michael Jackson. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait qu'il faut, avec beaucoup de prudence, parfois prendre la parole des enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants ne sont pas victimes. Ça ne veut pas dire que les enfants qu'on doit croire les pédophiles, etc. C'est simplement qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué, surtout dans quelque chose d'aussi extraordinaire et hors norme que Neverland, qui est un endroit où tout est fait pour un peu perdre des sens, ne plus savoir ce qui est réel ou pas. C'est Neverland, il y a un train géant pour se promener dedans.
C'est un parc d'attractions.
C'est un
Disneyland miniature.
C'est irréel en tant que tel. Irréel. Ce qui fait que la parole des enfants, au début, elle est prise avec à la fois sérieux et un peu de doute, parce qu'on ne sait pas bien ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, des choses incroyables qui peuvent avoir existé, ou simplement de l'ordre du malentendu. Il y aura donc une deuxième série de plaintes, surtout, qui commencera véritablement là à être très problématique pour Michael Jackson, qui ne pourra pas trouver d'arrangement financier et qui décide de jouer la carte judiciaire qui va durer des mois.
Quatre mois de procès.
Voilà. Ouais. 4 mois de procès avec un rythme extrêmement intense, avec des avocats qui font feu de tout bois à peu près, avec un nombre de stars qui défilent face aux familles qui, elles, sont beaucoup moins équipées. Elles ont des avocats sérieux parce qu'elles sont allées chercher des avocats qui se payent à l'américaine aux dommages et intérêts éventuels qui peuvent être records face aux milliards de Michael Jackson, mais qui n'ont pas le carnet d'adresses dont dispose Michael Jackson, qui fait vraiment défiler un nombre de témoins très important. Et surtout arrive ce moment où Matthew McConaughey, le jeune acteur qui avait, quand il était très gamin, 12-13 ans, fréquenté Michael Jackson, vient témoigner.
C'est
Pardon pour l'avoir mélangé avec un autre. Il vient à la barre et là, tout aurait pu vaciller du mauvais côté parce que c'est un enfant qui vient parler et qui a passé des nuits avec Michael Jackson et il finit par dire non, il ne s'est rien passé et avoir un témoignage qui finalement fera sans doute pencher la balance du côté de Michael Jackson qui sortira éreinté et acquitté de cette histoire.
On poursuit cette histoire dans un instant sur Europe 1 avec vous.
Pourquoi les procès des personnalités politiques ou du show business nous fascinent autant? On en parle avec Maître Emmanuel Perra, votre invité, Wendy Bouchard.
Qui publie Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités chez Hugo Doc. On parlait juste avant la pause de l'affaire Michael Jackson, 4 mois de procès en 2005. Une star innocentée, donc reconnue non coupable de tous les chefs d'inculpation. Verdict qui tombe il y a 14 ans. Une star innocentée mais qui ne remettra donc, et ça je l'avais oublié, je l'ai retrouvé en lisant votre livre, qui ne remettra jamais les pieds dans son ranch de Neverland.
Non, je pense que là, Michael Jackson a senti qu'il était passé très très près du couperet. Et désormais, Neverland, pour lui, a un goût, on va dire, de trahison, entre guillemets. Hein. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais un peu l'impression que son passé, ce qu'il avait voulu y construire, etc., le rattrape et ne prendra pas le risque d'y retourner et tournera la page dans un moment d'errance qui le mènera jusqà son décès.
Il s'expatrie dans
le Golfe. C'est assez curieux. Et là, on se retrouve avec une star assez déboussolée. Je pense que le procès a eu un impact phénoménal sur Michael Jackson dans sa façon ensuite de se regarder comme star. Ressorti avec une image extrêmement ternie de ce procès, malgré la popularité immense dont il jouit encore, le documentaire
récent. Alors justement, parce qu'il meurt en 2009, c'était il y a 10 ans, à Los Angeles, il meurt quand même sur la terre américaine, un documentaire récent passé sur l'antenne de M6 et de WNF, met en avant de nouveaux témoignages accablant la star de pédophilie. Alors c'est toujours compliqué, la justice à titre posthume, sa fille a fait une tentative de suicide à Michael Jackson, on est encore dans quelque chose qui poursuit manifestement la famille Jackson.
Non, c'est quelque chose de très compliqué. J'ai regardé ce documentaire qui est extrêmement émouvant d'un côté, parce qu'il y a des gens qui ont l'air d'avoir été, se présentent comme victimes. En même temps, il n'y a pas de débat contradictoire, on n'a pas interrogé qui que ce soit en face, on ne met pas en doute leur parole. C'est pas dans le cadre d'une instruction judiciaire où il y aurait des experts psychologue, psychiatre, pour savoir si ou non quelle est la part de vérité ou pas. On n'en sait rien, c'est un documentaire. C'est vrai que c'est très perturbant. Ça a suscité et fracturé là un peu l'image de Michael Jackson. On sait que la famille s'en est beaucoup inquiétée parce que les ventes et le patrimoine ou l'héritage, entre guillemets, des disques a commencé à être un peu écorné. Les disques de Michael Jackson ont commencé à un peu moins tourner et un peu moins être écoutés en streaming. Néanmoins, ça reste une pierre au dossier qui n'est pas la plus convaincante, faute d'avoir eu un débat contradictoire. Je crois qu'on ne saura jamais véritablement, parce qu'il y a eu sans doute des actes, mais des choses isolées, sans témoins, sans caméra. On est dans une ère un peu avant le numérique quand même, et avant toute cette surveillance que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc ça restera une affaire mystérieuse qui sera une ombre au tableau de la gloire incroyable qu'a connue Michael Jackson.
Ce qui est sûr, c'est que personne aujourd'hui ne veut acheter cette propriété de 2700 hectares. On a vérifié avec Julie.
Il faut être motivé pour aussi avoir une grand roue, un super 8.
Un manoir qui ressemble quand même, qui sent
un manoir surtout qui sent les affaires sulfureuses. C'est pas la maison de Landru, mais enfin, on est quand même dans un endroit qui va finir par avoir une connotation pas particulièrement sympathique.
Oui, complètement. Emmanuel Pierrat, vous êtes avec nous. Nous parlions en préambule de l'opinion publique qui jalonne ces différentes histoires. Qu'en font justement les avocats de ces personnalités, de cette opinion publique? Je pense au procès Bertrand Cantat. On va lui dédier quelques minutes et surtout d'abord à la mort de Marie Trintignant sous les coups du chanteur, son compagnon, qui nous a vraiment tous sonné. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Son procès a eu lieu il y a 10 ans. Et il y a une question qui est sans cesse relancé dans l'affaire Cantat, c'est peut-il encore chanter? Son crime doit-il l'empêcher jusqu'au bout de se produire sur scène comme artiste, comme si de rien n'était? Ce moment où justement l'opinion publique, après le procès, rattrape une personnalité dans un jugement morale. Alors, je voudrais qu'on écoute un petit extrait ensemble d'un débat qui avait eu lieu sur l'antenne d'Europe 1 il y a quelques mois, entre maître Henri Leclerc, avocat pénaliste, et la militante féministe Nadia Dam. Faut-il laisser Bertrand Cantat reprendre sa tournée des festivals? Il y renoncera finalement de lui-même, mais ces débats en ces termes.
Il n'y a plus de peine de mort, premier point. Je sens qu'un certain nombre le regrette. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet homme, peut-être qu'il a tort, hein, je ne dis pas du tout, je ne suis pas en train de juger moralement. Je dis, il revendique d'être devenu un artiste. Et il y a des milliers de gens qui vont écouter cet artiste. Ce n'est pas pour autant que cela change quoi que ce soit aux actes horribles qu'il a commis. Et je ne crois pas que cela change quoi que ce soit au problème fondamental, effectivement, qui est celui des violences faites aux femmes actuellement.
Et c'est parce que ces milliers de personnes vont retenir une chose, c'est le fait qu'on puisse briser le crâne d'une femme avec ses propres mains et retourner dans ses chaussons, dans sa vie d'avant.
Oui, mais alors
et personne ne veut qu'il arrête de vivre.
À la peine de mort, alors,
mais
si
évidemment
je
que non, et je souhaite à Bertrand Cantat de continuer sa vie et d'aller bien.
Moi j'ai défendu toute ma vie des gens qui avaient commis des actes horribles, effrayants, pire que celui-là, croyez-le. Bon. Eh bien, et certains d'entre eux se sont réinsérés dans la société.
Voilà Emmanuel Pierrat, comment on explique la permanence de ces débats entre le conflit, la peine purgée, la loi et ce qu'elle interdit ou pas? Comment vous vous positionnez?
Oui, il y a quelque chose qui nous perturbe beaucoup, hein, qui fait marcher en même temps, nous, d'un côté, le raisonnement, la raison. Nous nous disons tous que Bertrand Cantat a été jugé, il a été condamné, il a été en prison. Il a effectué une peine, oui, mais encore une fois, il a été jugé et il n'a pas été jugé par une justice de pacotille. Il a été jugé par des juges lituaniens qui sont aujourd'hui membres de l'Union européenne avec un système judiciaire que personne n'a dénoncé comme étant particulièrement léger, laxiste. Les peines auraient été les mêmes à peu près en France. Hein. Il faut se rendre compte que dans ce qu'on appelait à l'époque le crime passionnel. Qui n'est pas une expression aujourd'hui nécessairement à utiliser telle quelle parce qu'on ne tue pas avec passion, on tue dans des histoires d'amour qui dégénèrent ou qui se passent extrêmement mal. Il aurait eu sans doute à peu près le même traitement par des juridictions françaises. C'est le tarif à peu près. Et on voit aujourd'hui que des gens qui ont commis des actes abominables sortent. On voit Jean-Claude Roman. Je vous le rappelle, qui a tué toute sa famille, celui qui se faisait
sorti
dissimuler,
après 25 ans,
qui se
ans
faisait dissimuler pour se faisait passer auprès des siens pour un médecin de l'Organisation mondiale de la santé, qui a tué sa femme, tous leurs enfants, ses propres parents, quand il a sa mystification a été déjouée, il est sorti là, il sort dans quelques, c'est en ce moment ces jours-ci oui. de juin 2019, après avoir effectué 25 ou 30 ans, je ne sais plus, de peine, ce qui peut nous sembler incroyable. Et en même temps, c'est le droit que nous avons construit qui consiste à considérer qu'il y a une limite en quelque sorte et que quand les gens se sont comportés normalement en prison, ils sont non pas rachetables, ils ne sont pas pardonnables, mais ils sont réinsérables.
Contrairement à la justice américaine. Hein,
contrairement à la justice américaine, où les peines peuvent durer extrêmement longtemps, où on voit par exemple dans le cas de John Lennon, oui. Yoko Ono s'oppose depuis toujours à la mise en liberté de Chapman, qui est l'assassin de son mari, de John Lennon. Il fait des demandes en liberté et à chaque fois, la famille de la victime, Yoko Ono, s'oppose et dit non, ça n'est pas possible pour moi qu'il soit dehors et il reste enfermé.
Oui, on imagine que la famille Trintignant peut penser la même chose.
Je suis pas sûr que la justice américaine avec la peine de mort exécutée et ainsi de suite soit particulièrement l'exemple auquel il faille se référer pour nous, hein, qui vivons heureusement dans une démocratie où les droits humains existent et où il faut accepter de prendre sur soi et de considérer sans doute qu'il y a une séparation à faire. Bertrand Cantat, je ne crois pas qu'il chante les louanges des violences faites aux femmes, des meurtres et des coups qu'il a portés. Je ne le crois pas. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste de sa discographie. Donc la question, c'est de savoir dans quelle mesure il se produit sans s'imposer à ceux, sans s'imposer son spectacle à ceux qui n'ont pas envie de le voir. Voilà, je crois qu'il y a une différence quand il était en une des Arocs et qu'il était affiché sur tous les kiosques à journaux. Il y avait peut-être une difficulté. Quand il joue dans une salle de concert dans laquelle nous ne sommes pas obligés d'aller, mais dans lesquels il a le droit de jouer parce qu'il a purgé sa peine, alors moi je considère qu'il faut être capable de se séparer. Sinon,
rejoignez Maître Leclerc.
Je rejoins Maître Leclerc, évidemment.
Considérant que c'est un homme libre.
Il faut dire adieu au système judiciaire, adieu au système de droit. Il faut instaurer directement un système dans lequel les tribunaux n'existent plus, effectivement, où on rétablit la peine de mort, où on juge de façon arbitraire.
Oui, mais il y a toujours ce jugement, en effet, éthique et moral qu'on peut imposer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a le droit de reprendre la lumière après ce drame.
Notre société doit juger en droit et pas en éthique et en morale. Si elle commence à faire de l'éthique éthique et la morale, elle se prend pour l'Église et elle ne se prend pas pour un système démocratique. Nous avons construit un état de droit, nous sommes sortis de la monarchie, nous sommes sortis de beaucoup de choses pour arriver, de Pétain, pour arriver à construire un état de droit dans lequel c'est la loi, le système judiciaire. Si cela ne nous plaise pas, alors il faut les remettre en cause en faisant changer la loi, mais non pas en s'en prenant à ceux qui ont, en quelque sorte, sont passés par là. On ne peut pas s'en prendre d'un côté à Omar Radad ou pas à Omar Radad ou le soutenir, à Bertrand Cantat ou pas le soutenir, etc. La question, ce n'est pas de soutenir les gens, c'est juste d'accepter un système judiciaire qui me semble le moindre mal par rapport à tout ce qui pourrait être envisagé d'autre.
Et vous reprenez les mots d'Isabelle Monin dans le Nouvel Observateur. La passion autour de cette affaire n'est jamais retombée. Ils sont rares les faits divers qui prennent une telle dimension collective et symbolique. Rares les histoires qui suscitent tant d'émotions et de réactions.
Ce qui nous suscite, ce qui suscite une émotion, un écœurement, un dégoût extraordinaire dans cette affaire, c'est non seulement le meurtre d'une femme, le meurtre de sa compagne, les violences qui lui sont portées, c'est-à-dire que là ça se fait avec, elle a de l'arcade sourcilière défoncée, elle a des marques, des bagues de Bertrand Cantat sur le visage, c'est la jalousie, c'est-à-dire la pire des pensées qui traversent l'esprit, donc il n'a aucune justification, aucune explication, il n'y a rien pour l'excuser, si je puis me permettre, et surtout d'avoir attendu pendant des heures auprès de son corps, alors qu'elle était sauvable, jusqu'au moment où il était trop tard. Donc d'être resté hébété, d'avoir appelé la police et les secours seulement au petit matin, à être resté comme ça sonné, sans doute sous l'alcool, plutôt que d'avoir été un homme qui avait commis une horrible, mais qui aurait pu peut-être, non pas se rattraper, mais sauver la vie à laquelle il disait tenir tant.
Oui, Emmanuel Pierra est avec nous pour parler, là, avec beaucoup d'émotion et de force de cette affaire Bertrand Cantat, de la mort de Marie Trintignant. Juste après la pause, cette question que nous soumettrons à une sociologue, Nathalie Hennig, qui a beaucoup travaillé justement sur le pouvoir de fascination des stars, juste après la pause sur Europe 1. Encore quelques minutes ensemble.
Notre invité maître Emmanuel Pierra a enquêté sur les procès de grandes personnalités, politiques ou people, comme on dit. Le récit de ces procès est à retrouver dans son livre « Star à la barre » aux éditions Hugo et Dodd.
Pourquoi ces stars nous fascinent autant et avec les épisodes les plus heurtés de leur vie, la vie des people et en particulier les chroniques de mœurs et chroniques judiciaires intéressent et captent le public et les journaux people. Et là, nous convoquons l'expertise de Nathalie Hennig. Bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes sociologue et auteur notamment de la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique, est-ce qu'on s'intéresse pour vous davantage à la vie des stars qu'auparavant, notamment dans le cénacle d'un prétoire ?
Écoutez, c'est difficile de faire des comparaisons parce que ça n'a pas été mesuré hein, par rapport à, disons, il y a 50 ou 70 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qui forme d'abord la cause de l'intérêt, c'est la possibilité d'accéder à l'information sur ces sujets. Or, ce qui a changé depuis, disons, le milieu du XXe siècle, c'est la possibilité d'avoir des informations d'abord par la télévision, ce qui n'existait pas avant, puis par Internet et les réseaux sociaux, et surtout la presse people qui a explosé, si on peut dire, à partir des années 2000, notamment suite à l'apparition des émissions de télé-réalité. Mmh. Et donc, on a des possibilités techniques beaucoup plus grandes d'accéder, disons, à la vie privée des personnalités.
Et qui nous a plongé dans un plaisir un peu malsain qu'on a à voir les mésaventures d'autrui. C'est-à-dire que quand une personnalité sombre, on se sent un peu supérieur. C'est comme ça aussi que vous analysez ce besoin de narration auquel on se rend si captif.
Il faut d'abord dire qu'il y a quand même des millions de personnes qui ne s'intéressent pas du tout à ce genre de choses. Hein. Il ne faut pas imaginer que tout le monde s'intéresse à la vie privée des célébrités. Mais c'est vrai que les célébrités, elles se caractérisent d'abord par ce que j'appelle un capital de visibilité, c'est-à-dire le fait d'être reconnues, identifiées par beaucoup plus de gens qu'elles n'en identifient elles-mêmes. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un capital. Mmh. Et du coup, ça lui confère une sorte de privilège, de prestige, qui fait qu'on a envie de s'en approcher, probablement parce que la proximité avec un grand est considérée comme donnant de la grandeur à la personne qui en est proche. Plus le fait qu'évidemment, dès lors qu'on a quelque chose qui a rapport avec du secret, ça attire l'attention, que ce soit le secret du voisin ou le secret du grand. Alors quand c'est le secret du grand, évidemment, comme il est grand, ça attire davantage la curiosité.
Oui, mais c'est vrai, Nathalie Hennig, qu'on parle en général davantage de stars qui ont tendance à faire des procès que de stars à la barre avec ces affaires que met en avant Emmanuel Pierra. C'est plutôt l'inverse en général.
Hein, oui, en fait, il y a beaucoup plus, dans les prétoires, il y a beaucoup plus de procès intentés par des célébrités pour protéger leur vie privée, leur droit à l'image, que de procès intentés à des célébrités. Mais ça, les premiers, on en a très peu connaissance. Enfin, il faut être un peu spécialiste pour le savoir. Enfin, Emmanuel Vieira le sait très bien. En revanche, les procès intentés à des célébrités relèvent des faits divers et sont donc beaucoup plus rares.
Oui, et on va y revenir d'ailleurs, un homme qui a suscité les deux, attaqué un peu et qui a dû se défendre aussi, Johnny Hallyday, au cœur de cet ouvrage aussi, avec une affaire le liant à Adeline, à laquelle il fut marié deux fois. On le rappelle, Nathalie Hennig, je rappelle l'un de vos ouvrages, De la visibilité, excellence et singularité en régime médiatique, et votre dernier livre, Ce que n'est pas l'identité chez Gallimard. Merci pour ce petit éclairage et à tout de suite sur Europe 1.
23 procès traités dans le livre de notre invité maître Emmanuel Vieira. Alors, il y a des tas de noms, bien sûr, qu'on retrouve. Michael Jackson, on en a parlé. Oscar Pistorius, Jean Gabin, Donald Trump, Charlize Theron, les enfants de Marlon Brando, Yves Montand. C'est incroyable, tous ces gens qui ont eu affaire à la justice.
Ah oui, et dans des histoires plus ou moins dramatiques. On va terminer avec une histoire un peu plus légère. On parle de divorce, c'est jamais drôle un divorce, mais quand il y a du Johnny Hallyday dans l'air, forcément ça prend des proportions. C'est le divorce avec sa troisième femme qui vous intéresse dans cet ouvrage, avec Adeline Blondiot, qu'il a épousée deux fois, Emmanuel Vieira. Hein.
Oui, qu'on connaît aussi parce qu'elle avait joué dans Sous le soleil, une série quand même qui a eu un énorme succès.
Oui.
Adeline Blondiot, c'est la fille d'un ami de Johnny, hein, d'un ami. Elle a grandi en quelque sorte
Johnny l'a vu naître.
Johnny l'a vu devenir petite fille, puis femme. Et puis il y a eu une histoire d'amour compliquée. Hein.
Oui.
Ils se sont séparés une première fois, puis se sont remariés.
Voilà.
Avant finalement de considérer que non, c'était pas ça, et qu'il fallait se séparer. Et le divorce s'est plutôt très mal passé. Mm-hmm. Il s'est très mal passé notamment parce que Johnny a publié un livre avec Amanda Sterz, qui était l'ex de Patrick Bruel, si vous me suivez dans mes affaires
de
People.
Oui, dans mes yeux, autobiographie.
Dans mes yeux, livre important de témoignages ou de confessions, mais dans lesquels il dit à un moment... Adeline Blondiot m'a fait cocu tous les deux jours.
Voilà, hystérique et violente, elle couchait avec tous les petits mecs de Saint-Tropez et elle faisait la sainte nitouche. Voilà, la phrase qui fait mouche.
Et Adeline, légitimement, n'a pas beaucoup aimé cette phrase. Et donc, elle s'est tournée à la bataille juridico-médiatique, puisqu'elle l'a accusé soudainement, Johnny Hallyday, de viol, en disant, oui, peut-être tu dis que je l'ai trompé, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand j'avais 15 ou 16 ans, quand j'étais adolescente et non pas sa femme mariée, quand j'étais encore la fille d'un de ses meilleurs amis, il a abusé de moi violemment. Et là, le procès s'est retourné, entre guillemets, en tout cas, l'affaire s'est retournée contre Johnny Hallyday, qui a poursuivi en diffamation et qui finalement a gagné et a réussi à rétablir son honneur, en tout cas réparer son honneur. Adeline Blondiot a fini par perdre le procès, mais l'image de Johnny en avait pris pour le moment, à cette époque-là, un sacré coup, dans une bataille quand même, ou un divorce qui s'était très mal terminé, alors que les autres histoires d'amour de Johnny, que ce soit Sylvie ou Nathalie Baye, sont des histoires où les gens se sont séparés en adultes, s'aimant toujours, en tout cas s'affectionnant énormément.
Et je vous laisserai découvrir l'interprétation de la tromperie à Saint-Tropez et du fait qu'elle jouait les Saintes Nitouches. En tout cas, ironie de l'histoire ou pas, elle mettait Adeline Blondiot il y a quelques mois sa robe Nina Ricci, sa robe de mariée aux enchères, entre 12 000 et 15 000 euros. Eh bien, elle est repartie avec Adeline Blondiot. Personne n'en a voulu. Merci beaucoup Emmanuel Vieira, star
à
la barre. 23 affaires extraordinaires de célébrités chez Hugo Doc. C'est passionnant et c'était un plaisir de vous recevoir de nouveau, maître Vieira. À demain, ma Julie.
À demain.
Merci de votre fidélité.
Wendy Bouchard. Et c'était le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour faire garder leur courrier pendant les vacances cet été. Retrouvez toutes les solutions qui vous font gagner du temps sur laposte.fr/pro.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.